Chers frères et sœurs et chers amis, notre nouvelle série d'études est intitulée « Le vainqueur ». Je prie afin que Dieu enlève toutes les blessures du passé et qu'il vous accorde la guérison pour le présent, la guérison pour l'avenir, tandis que vous marchez en obéissance totale envers le Seigneur. Chers amis, nous allons essayer de comprendre l'importance de l'obéissance. Soyez prêts, nous dit le Seigneur, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Saint Matthieu, chapitre 24, verset 44. Cela arrivera soudainement. Ceux qui sont vivants et qui obéissent à Jésus-Christ à sa seconde venue seront changés en un seul instant, en un clin d'œil. Oui, enlevés pour être avec le Seigneur pour toujours. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 52. Un mot, l'obéissance, peut faire la différence entre le fait que vous soyez enlevé ou laissé derrière. Lorsque vous exprimez ce mot unique en accord avec les enseignements de Christ, il n'existe pas assez de démons pour vous empêcher d'être pris dans l'enlèvement si vous vivez sur terre, et ceci au moment où Jésus revient. L'homme et la femme ouvrirent les temps marqués par l'obéissance. Malheureusement, ce commencement formidable fut suivi, hélas, de longues, très longues périodes de désobéissance. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, à travers toute la Bible, nous trouvons la désobéissance ainsi que l'obéissance. L'homme n'était pas capable d'obéir à Dieu en tout. Notons comment différents personnages bibliques ne furent pas fidèles à Dieu, et ceci à certains moments. Beaucoup sont des exemples d'échecs dans la Bible. L'homme n'a pas été totalement obéissant à travers les siècles. Seuls quelques-uns ont servi Dieu sans échouer. Oui, et ceci, croyez-moi, très peu de gens. Voyez-vous, ceci devrait vous dire combien il est important d'avoir Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas avoir tout de Jésus-Christ tant qu'il n'a pas tout de vous. Et cela n'arrivera que par l'obéissance. À cause de la désobéissance, la malédiction est venue, mais par l'obéissance, la malédiction sera abolie. Par l'obéissance, l'homme peut désormais être délivré de tout péché. Il est dit dans Actes chapitre 6, verset 7, « La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Et, chers amis, j'aimerais vous demander, obéissez-vous à la foi de Dieu, la foi que Jésus apporta? Il n'a pas seulement apporté la parole sainte, il était la sainte parole faite chair. Quel est le cancer de la désobéissance? Voyez-vous, lorsque les actes de votre famille ou de quiconque avec qui vous êtes associé ne sont pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, leur esprit ne le sent pas non plus. Si vous voulez rester obéissant envers Dieu, vous ne pouvez pas vous incliner devant leurs désirs qui sont déphasés par rapport à Dieu. C'est là que de nombreuses personnes ont échoué. Et en cette dernière heure, dit le Seigneur, nous devons nous revêtir de toute l'armure, oui, de toute l'armure de Dieu, et de mettre toute l'armure de Dieu et être obéissant comme Jésus-Christ l'était, même obéissant jusqu'à la croix. Dieu essaya tout avant de permettre que son Fils soit offert sur la croix. Mais rien ne put guérir l'humanité de ce cancer de la désobéissance, absolument rien. Aucun remède ne suffit pendant assez longtemps, et l'homme, il est toujours, on peut dire, retourné en rampant dans son donjon de désobéissance, s'enfermant dans les ténèbres et isolé de Dieu. Alors Jésus-Christ est venu en manifestant toute l'obéissance de Dieu, le même esprit d'obéissance que le premier Adam avait possédé avant la chute. Chaque jour, dans le jardin d'Éden, cet esprit avait dit « Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Et des siècles plus tard, ce furent aussi les paroles de Jésus-Christ. Ce n'était pas la volonté du Père que Jésus-Christ soit crucifié, mais parce qu'il n'y avait pas aucun autre moyen de racheter l'humanité, Dieu le Père donna son Fils bien-aimé pour sauver un monde perdu et mourant. Jésus-Christ fut le don d'amour de Dieu à la terre. Tout ce dont vous avez besoin, le Seigneur vous l'a donné. Le plan global pour la vie se trouve dans la Bible. Combien de ce plan avez-vous pris? Certains parmi vous ont parcouru la Bible en tirant ce que vous vouliez, ce qui convenait à vos plans, et vous avez utilisé cette partie et seulement celle-là, sans accepter toute la vérité contenue dans la Sainte Parole. Cela a permis au cancer de la désobéissance de produire ses racines dépurantes, oui, on peut dire plutôt répugnantes. Ce sont vraiment des choses répugnantes de ne pas désobéir à la parole de Dieu. Certains n'accepteront pas du tout la partie spirituelle, la partie qui déclare que vous devez vivre libéré du péché. En n'acceptant pas cette partie, eh bien, vous désobéissez à Dieu. De ce fait, vous n'entrerez jamais dans le ciel de Dieu. Le Seigneur vous fait clairement savoir qu'un seul péché entraîna l'expulsion de l'homme du jardin. Un seul péché coûta à l'humanité la présence de Dieu. Comment pensez-vous que vous pouvez parvenir au ciel avec le péché dans votre vie lorsque Dieu a déjà chassé le premier homme et la première femme pour leur seul péché au point de sacrifier son Fils bien-aimé des siècles plus tard. C'était un sacrifice nécessaire afin que l'homme puisse une fois encore avoir un accès direct à Dieu. Tandis que les siècles éternels passent, le Fils de Dieu portera des cicatrices à cause de son grand sacrifice d'amour. Cependant, toutes nos cicatrices partiront. Vous aimerez ces cicatrices, mais Dieu le Père aurait préféré qu'elles n'aient jamais été nécessaires. Voudriez-vous, chers amis, que votre fils soit couvert de cicatrices tout le temps et pour l'éternité? Nous pouvons attendre avec impatience l'espérance bénie, en sachant que si nous sommes en Dieu, l'éternité sera un seul jour parfait. Mais Jésus-Christ aura toujours les cicatrices sur ses mains, sur ses pieds, son côté et, sans aucun doute, les cicatrices provenant des épines aussi. Le Fils de Dieu, le joyau le plus brillant du ciel, couvert de cicatrices, abîmé pour vous et pour moi. Chers amis, vous pouvez vivre libéré du péché. Car celui qui commet le péché est du diable, mais certains parmi vous n'accepteront pas cela, et ainsi vous n'obéissez pas à Dieu. Non seulement votre désobéissance fera que vous raterez l'enlèvement, mais elle vous enverra en enfer. Si le calvaire ne vous dit rien, il proclame la délivrance du péché par le sang de Jésus-Christ. Si le sang de Jésus-Christ n'enlève pas tout le péché, il n'en enlève aucun. Pourquoi croyez-vous que Jésus aurait-il payé un tel prix sur la croix pour enlever tous les péchés et de n'accorder absolument pas la puissance pour vous protéger du péché? Il vous accorde aujourd'hui toute sa puissance pour vous protéger du péché, chers amis. Car par le sang de Jésus-Christ, il y a une puissance d'observation, mais vous devez avant tout vous livrer à cette merveilleuse puissance d'observation du Seigneur afin qu'elle puisse agir pour vous et en vous. L'obéissance était l'esprit d'Adam et d'Ève avant la chute. Et elle est l'esprit de ceux qui sont près de Dieu, et ceci à l'heure actuelle. Ce doit être l'esprit de chacun, dit le Seigneur, d'être prêt pour le prochain retour de son Fils Jésus-Christ. Chers amis, croyez-moi, il est temps de se lever et d'obéir à toute la parole de Dieu, oui, d'obéir au Saint-Esprit. Dieu a donné à Adam et Ève tout ce dont ils avaient besoin dans le jardin d'Éden et il leur a dit de ne pas faire une seule chose. À l'heure actuelle, Dieu vous a donné beaucoup de choses dont vous pouvez jouir et il ne vous a refusé que ce qui est péché. Malheureusement, la chair a toujours tendance à tendre vers les interdictions. Ce n'est qu'en vous tenant à l'écart des interdits de Dieu, ce n'est qu'en lui obéissant totalement qu'il sera une réalité vivante dans votre cœur et que vous serez semblable à Jésus-Christ. Certains essayent d'être comme Jésus-Christ sans son obéissance, mais cela ne marchera pas. Sans Jésus-Christ dans votre cœur, vos actes ne sont que de simples imitations et non la chose réelle. Car imiter Christ n'est pas la même chose que Christ vivant dans votre cœur obéissant. Vous avez besoin du vrai Jésus-Christ, de son amour, de sa foi. Vous devez prendre Jésus-Christ tout entier avant que vous puissiez marcher complètement sans désobéissance. Voyez-vous, ceux qui sont obéissants sont baptisés dans le Saint-Esprit. Vous dites que vous ne pouvez pas être comme Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas l'être à moins que vous ne le preniez dans votre cœur et dans votre vie par son sang précieux, car vous ne serez jamais obéissant à la parole de Dieu tant que vous ne serez pas purifié par le sang et vous n'aurez jamais tout l'amour dont vous avez besoin pour obéir à sa sainte parole tant que vous ne serez pas baptisé dans le Saint-Esprit. Jésus-Christ pria le Père et il lui demanda de nous envoyer un autre don, merveilleux, le consolateur, en plus du don merveilleux de son fils bien-aimé, et ce don était la troisième personne dans la trinité de la divinité. Le Saint-Esprit devint notre pour nous aider à rester dans un état d'obéissance en cette dernière heure. Tant que vous n'avez pas l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas accepter toute la vérité de Dieu. Vous déplaisez au Seigneur lorsque vous refusez d'accepter toute la vérité. En n'acceptant pas cette vérité, les hommes désobéissent à la parole de Dieu parce que recevoir le Saint-Esprit est un commandement de Jésus-Christ, selon Actes chapitre 1, verset 4, verset 5 et verset 9. La Bible nous dit également que Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Actes chapitre 5, verset 32. Oui, de nombreuses personnes n'obéissent pas à Dieu, mais ceux qui obéissent reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit n'ont pas pu le faire, soit à cause d'une ignorance de la Sainte Parole ou à cause d'une désobéissance envers Dieu. S'ils obéissaient à Dieu, Dieu les remplirait du Saint-Esprit, c'est ce que dit le Seigneur. Dieu déclare que nous sommes pesés par l'esprit d'obéissance envers sa parole, et non par les pensées et les théories de l'homme. Voyez-vous, nous sommes pesés par l'esprit d'obéissance à la sainte parole du Dieu vivant. La sainte parole est suprême. Tout ce qui vous arrive, toute manifestation autour de vous, chaque vision, chaque théorie, chaque doctrine doit être amenée à la sainte parole de Dieu, pesée par la sainte parole, tout comme nous le sommes. Seule une comparaison assidue à la sainte parole empêchera la confusion quant à savoir si ces manifestations proviennent du moi, du diable ou de Dieu. Comparez-les à la sainte parole du Dieu vivant. Si elles se montrent à la hauteur de la sainte parole, elles sont justes. Vous connaîtrez la vérité, a dit Jésus-Christ, et la vérité vous affranchira. Saint Jean, chapitre 8, verset 32. Donnez-le-moi. Donc, se donner à Dieu signifie lui donner aussi vos fardeaux. Vous n'avez pas plus de Dieu que la quantité de moi, de vous-même, que vous lui donnez. Certains d'entre vous donnent 25% de vous-même au Seigneur chaque jour. Certains donnent 50% en pensant que vous vivez vraiment de manière sainte. Malheureusement, vous jugez votre vie d'après les vies de ceux qui ne donnent que 25%. D'autres donnent 75% et sentent qu'ils sont vraiment proches de Dieu parce qu'ils comparent leur vie à ceux qui ne donnent que 50%. Si vous compariez votre vie à celle du Seigneur, vous verriez combien plus du moi il y a encore à donner. Voyez-vous, le diable trompe les gens. Tant que vous n'avez pas donné, non pas 99%, mais 100% de vous-même tout le temps, et tant que vous ne savez pas que vous êtes la propriété de Dieu, lui appartenant totalement, vous n'avez pas réellement tout donné. Le Seigneur veut tout, absolument tout de vous. Jésus-Christ a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger, est-il dit dans Saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Dieu a un plan pour vos fardeaux, mais certains d'entre vous ne l'accepteront pas pour ce plan-là. Vous ne lui ferez pas confiance en vous confiant dans votre propre jugement plutôt que dans celui de Dieu, en marchant sur le chemin de la désobéissance, vous allez avoir des problèmes. Empruntez le chemin du Seigneur, n'ignorez jamais la main du Saint-Esprit alors qu'elle est étendue sur vous et vous guidant. Voyez-vous, le mauvais chemin paraît sûr de votre position avantageuse, et donc vous ne faites pas attention à Dieu lorsque il tente de vous dire « ce n'est pas le chemin ». Marchez sur le chemin du Seigneur, aussi alléchant que puisse paraître un autre chemin. Laissez le Seigneur choisir vos chemins pour vous. Voyez-vous, lorsque vous arrivez à la fin de chaque journée par le Saint-Esprit, faites une étude du « moi », de vous-même. Découvrez ce que Dieu pense de vous. Avez-vous marché dans ses voies? Lui avez-vous plu en toutes choses? Avez-vous réellement entrepris l'œuvre de Jésus-Christ comme il s'y attendait? Vous devez marcher comme Jésus-Christ a marché, parler comme il a parlé, pardonner comme il pardonne, aimer comme il aime. Faites-vous, chers amis, ces choses-là? Il est facile de comprendre que c'est surtout ceux qui désobéissent, qui contestent la parole de Dieu, qui auront un jour des problèmes. Voyez-vous, un missionnaire a dit récemment « J'ai laissé Dieu choisir mes chemins pour moi. Je n'ai pas choisi le chemin sur lequel je suis. Dieu m'a dit qu'il m'envoyait sur une mission divine. Je ne l'ai jamais oublié. Je suis dans les affaires pour le Seigneur et ma vie doit compter sur lui jour et nuit. Il ne doit pas y avoir un seul petit esprit de désobéissance en moi, une seule seconde sur 24 heures. Oui, chers amis, vous ne croyez pas que une personne puisse vivre comme cela. Cela montre que vous êtes désobéissant. Vous n'acceptez pas toute la parole de Dieu. Ne pas croire la parole totalement signifie que vous avez un esprit de désobéissance. Vous vous êtes rebellé contre la parole de Dieu. Vous vous êtes opposé carrément à la parole de Dieu. Seule la désobéissance conteste la parole de Dieu. Dieu n'est pas changeant. Les gens ont tendance à juger Dieu par leurs propres incertitudes et leurs propres insécurités. Et cela blesse leur foi en Dieu. Il est temps, voyez-vous, de perdre de vue chaque personne ou chaque chose qui essaye de prendre la place de Dieu dans votre vie. Ce qui vous éloigne de la présence de Dieu, de faire la volonté de Dieu, quoi que ce soit, est mauvais parce que cela empiète sur votre confiance et votre obéissance. Deux mots, se confier et obéir, sont les clés pour vivre pour Dieu. Certains d'entre vous essayent d'obéir à Dieu sans lui faire confiance. Cela ne marchera pas. En ne lui faisant pas confiance, vous ne croyez pas que Dieu fait concourir toutes choses à votre bien. Vous ne croyez pas qu'il veille sur vous nuit et jour ou qu'il veut que toutes ses promesses soient accomplies pour vous. Se confier, c'est obéir. Je répète, se confier, c'est obéir. Vous parlez de faire confiance à Dieu, vous déclarez lui faire confiance, mais vos actes, ils disent autre chose. Certains d'entre vous ont vécu si longtemps avec leur désobéissance que c'est devenu une partie naturelle de vous-même et que vous ne lui accordez aucune pensée. Vous avez appris à vivre en mélangeant l'argent de Dieu avec le vôtre et à le dépenser comme s'il était à vous, en volant Dieu carrément. Si vous ne croyez pas que payer votre dîme est nécessaire, alors vous désobéissez en vous demandant souvent pourquoi les choses ne marchent pas pour vous. Seule la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, vous préserve du jugement que vous méritez vraiment. En trompant votre propre cœur, vous sentez que vous avez fait toute la volonté de Dieu. Nous savons qu'à l'heure actuelle, les gens, qu'ils soient chrétiens ou pas, ont soit entendu ou vu toutes sortes de choses concernant cette question de plus en plus délicate à propos de la dîme. Voyez-vous, de nombreux chrétiens ont eu l'occasion de constater les flagrantes exagérations, soit par les magazines ou les journaux chrétiens, soit par des serviteurs de Dieu, etc. Afin de ne pas en rajouter encore plus, j'aimerais simplement dire à ceux qui font partie du corps de Christ, ce qui ne signifie pas du tout un temple ou un édifice religieux, que le terme et l'application de la dîme peuvent avoir tout un éventail d'applications. Avez-vous compris? Tout un éventail d'applications. Quelques brefs exemples. Par exemple, un chrétien ou une chrétienne qui, pour des raisons précises, n'ont pas l'occasion de se rendre dans un lieu de culte, peuvent aider financièrement selon ce que le Seigneur leur met dans le cœur, par exemple un orphelinat. Pouvoir anonymement ou pas aider une personne chrétienne en grande difficulté ou même très malade, mais n'ayant aucun moyen financier de se faire soigner. Ou encore, aider un couple missionnaire qui se trouve dans une grande précarité et des centaines d'autres situations. Je peux vous certifier que le Seigneur en tiendra compte bien plus que certains qui intentionnellement voudraient faire croire que c'est le contraire. Priez d'abord et le Seigneur guidera votre cœur. Ayez une totale confiance en lui. La Bible nous dit dans la première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue seulement, mais en action et en vérité. De nombreuses personnes disent « J'aime le Seigneur », mais elles ne l'aiment pas vraiment. C'est facile de dire aux autres que vous les aimez. Mais le véritable amour agit. L'amour véritable prend des responsabilités, accepte les sacrifices. Si vous avez un amour réel pour Dieu, eh bien, vous l'honorez en tout, vous le mettez en premier en toutes choses. Certains parmi vous ont échoué avec Dieu parce que vous n'avez pas aimé en parole et en acte. Et la tristesse règne dans votre vie. Décidez en acte d'obéir totalement à la parole de Dieu. Si vous avez une obéissance quelconque, elle ressortira, pas nécessairement dans vos paroles, mais dans vos actes. Dieu est justifié dans n'importe quel châtiment qu'il envoie sur ceux qui désobéissent, mais parce que il est miséricordieux. Il a retenu une grande partie de son châtiment. Cependant, le temps vient où il ne va plus le retenir, dit le Seigneur. en cette dernière heure, Dieu agit avec une grande discipline parce que beaucoup de choses sont en jeu. La Bible nous dit « un pays naîtra en un jour ». Eh bien oui, c'est la dernière heure, celle de la dispensation du Saint-Esprit. La dispensation de Dieu s'est terminée, la dispensation de Jésus-Christ a pris fin, et maintenant le Saint-Esprit est dans sa dispensation et elle est sur le point de se terminer. Les signes de la fin des temps nous disent que ceci est vrai. Le Seigneur est en train de supprimer graduellement la dispensation du Saint-Esprit. Cela signifie qu'il est presque prêt à ramener les Juifs sur la scène centrale. Ils sont dans les coulisses attendant de monter dessus. Les Juifs et les non-Juifs n'ont jamais été sur la même scène d'action pendant n'importe quelle durée. Maintenant, les Juifs sont devenus une nation. Dieu est en train de les honorer. Ils ne lui obéissent pas en toutes choses, c'est vrai, mais ils obéissent au point de retourner et de se rassembler en Israël. Bientôt, ils accepteront Jésus-Christ leur Messie et un pays naîtra en un jour, amené dans le royaume. Oui, dans le royaume, en un seul jour, et ce qui est maintenant chose faite. Oui, les Juifs parviennent à l'obéissance lorsque ils marcheront dans une obéissance totale. Ils accepteront Christ le Messie et ils seront obéissants en toutes choses. À l'heure actuelle, ils ont un cœur pour lutter pour leur terre promise en s'opposant à de nombreux pays. Si une obéissance partielle apporte la grandeur de Dieu à la nation juive, qu'est-ce que cela sera le jour où ils accepteront Christ le Messie comme étant le Fils de Dieu? Ce sera, croyez-moi, fabuleux. Lorsque les Juifs reconnaîtront Jésus-Christ comme étant le vrai Messie, aucun pays ne pourra s'opposer à eux, même si le monde entier s'unit. Par l'Esprit Saint de Dieu, Israël est en train de prospérer, tout comme David prit la fronde au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que Dieu combattit pour lui, rappelez-vous, eh bien le Seigneur, à l'heure actuelle, combat pour Israël. Bien que certains d'entre vous croient qu'un jour prochain, les Juifs viendront au Seigneur en tant que nation et que tous leurs péchés seront pardonnés, vous ne vivez pas comme si vous pouviez être pardonnés. Non, non, vous avez Jésus-Christ dans votre cœur. Mais il ne semble pas encore absolument réel. Chers amis, obéissez-vous à l'évangile de Jésus-Christ? Si dans l'obéissance vous faites la volonté de Dieu, alors Jésus-Christ est votre frère. La Bible le déclare dans Saint Marc chapitre 3 verset 35. Vous rendant, donc on peut dire, non seulement héritier de Dieu, mais aussi co-héritier avec Jésus-Christ, nous est-il dit dans Romains chapitre 8, verset 17. Chers amis, obéissez-vous à son évangile de liberté, d'amour et de foi? Utilisez-vous la foi de Dieu, la connaissance de Dieu, la paix de Dieu? Toutes ces choses appartiennent à l'enfant de Dieu. Pourquoi ne pas utiliser ce qui est votre ce qui, on peut dire, est carrément à votre disposition, il faut bien le dire. Voyez-vous, l'amour, c'est toute la différence. Lorsque vous aimez Dieu suffisamment, vous pouvez escalader chaque colline, porter chaque fardeau pour lui, et ce ne sera pas de trop. Chers amis, voyez-vous, les promesses du Père que Jésus accepta lorsqu'il était ici sur terre sont à nous pour que nous les proclamions et les utilisions, selon la première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, pour autant que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Ce verset contient la clé pour recevoir ce que nous demandons, pour obtenir une réponse aux prières d'après sa volonté de garder ses commandements et lui être agréable. Le péché lui est-il agréable? La perversité lui fait-elle plaisir? Seul le véritable amour lui est agréable. La véritable droiture et la sainteté lui sont agréables. Une vie sainte, une conversation sainte lui sont agréables. Autre chose, pourquoi aller dans des endroits où Jésus n'irait jamais? Écouter des histoires louches, les raconter. Que regardez-vous à la télévision? Allez-vous voir des films classés X qui maudissent et blasphèment le nom de Dieu? Ces choses sont-elles mauvaises, s'il vous plaît? Posez-vous la question la prochaine fois que vous êtes impliqué. Jésus-Christ serait-il ici avec moi? Regardez autour de vous et voyez si vous êtes dans un endroit qui approuverait. Voyez si vous ressentez sa sainte présence. N'allez pas là où Jésus n'irait pas, car vous le représentez. Peut-être votre conscience est-elle un peu abîmée. De trop nombreuses personnes ne possèdent pas une conscience de l'obéissance. Vous pouvez avoir une conscience avec une certaine désobéissance, une certaine tromperie, une conscience qui justifie vos actes par les actes des autres, plutôt qu'en vous assurant que vos actes sont en accord avec ceux de Christ. Tout le monde le fait. C'est une justification, une excuse très courante. Dieu n'a pas dit que quelque chose était bien si tout le monde le faisait. Si cela avait été le cas, il n'aurait jamais envoyé le déluge au temps de Noé, lorsque tous les hommes péchaient, à l'exception de Noé et de sa famille, à cause du péché dans Sodome et Gomorre. Dieu détruisit tout le monde, sauf quatre personnes. À chaque fois que Dieu s'est dressé contre le péché, il a détruit ceux qui avaient le péché dans leur vie, donc ceux qui désobéissaient à sa sainte parole. Dieu aima tellement les Israélites en les faisant sortir de l'esclavage en Égypte qu'il détruisit des milliers de personnes à des moments différents lorsque l'esprit de désobéissance et de rébellion se levait. Cependant, l'obéissance à Dieu aida à les faire sortir du désert. Aujourd'hui, vous voyez les miracles de Dieu, mais vous, pliez-vous à sa volonté? Désobéissez-vous à Dieu et ensuite justifiez-vous cette désobéissance en proclamant que vous en aviez le droit parce que quelqu'un vous a traité injustement? Cela ne fait pas de différence. Voyez-vous, voici encore, j'aimerais vous dire une chose très délicate. Parlez-vous, chers amis, comme Jésus-Christ? Agissez-vous comme lui? Croyez-vous que Jésus-Christ avait un esprit de commérage, qu'il démolissait les gens ou qu'il était malveillant? Quand, pour la dernière fois, chers amis, quand avez-vous dit du mal de quelqu'un? Avez-vous dit des mots qui lui auraient fait mal s'il vous avait entendu? Votre conversation élève-t-elle l'âme ou est-elle critique? Êtes-vous vraiment obéissant dans vos conversations? Le Seigneur veut que votre façon de parler soit empreinte de son amour et de sa grâce. Ce n'est qu'avec le consentement de Jésus-Christ que votre façon de parler sera acceptable pour Dieu. Si ce n'avait pas été pour Jésus-Christ, le second Adam, nous serions incapables de parler correctement, de vivre correctement, de penser correctement et d'être corrects. Car Jésus-Christ, nous, c'est par lui, oui, par Jésus-Christ, que nous devenons des créatures nouvelles. C'est ce que je voudrais dire. C'est par lui que nous pouvons devenir des créatures nouvelles. Le moi est étouffé et crucifié. Alléluia. Cependant, de nombreuses personnes sont dupées à propos du moi. Ils les gênent. Vérifiez le moi. Faites une critique de vous-même devant Dieu pour découvrir si la critique est valable. Parfois, vos amis peuvent cacher la vérité. Ils sont pleins de préjugés en votre faveur. Le Saint-Esprit vous dira toute la vérité si vous restez avec lui et l'acceptez. Dans votre lieu de prière, le Saint-Esprit vous montre les parties du moi qui ont besoin d'être arrangées. Mais certains parmi vous n'écouteront pas. Vous êtes trop occupés à dire au moi ce qu'il vous entend, hein? C'est vrai. Donc, n'écoutez pas. Trompez, voyez-vous, chers amis, dans votre propre cœur, et ceci par de petits actes de désobéissance, eh bien, vous commettez, je crois, en fait, le péché de temps en temps, et par la même tromperie du moi, vous le justifiez. C'est ça le pire. Et le péché a commencé par des actes de désobéissance, des actes qui offensaient le Saint-Esprit, mais qui n'étaient pas le péché réel. Cependant, tandis que vous continuez de penser que vos désobéissances étaient toutes bonnes, vous étiez amené de plus en plus loin, carrément du Seigneur, jusqu'à ce que vous commettiez finalement le péché, et cela ne vous a pas gêné du tout. Maintenant, vous péchez un peu, vous priez un peu, et vous vous sentez justifié. Or, vous ne l'êtes pas du tout. Le jour est passé où vous pouviez pécher. Maintenant, chers amis, tombez à genoux, tombons tous à genoux et crions « Ô Dieu, pardonne-moi ». Et à partir de maintenant, ne commettez plus ce même péché en attendant d'être à nouveau pardonné. Chers amis, nous ne pouvons pas jouer avec les dés du diable. Vous vivez dans les derniers temps. Il est temps d'être très sérieux avec Dieu. Tout péché empeste au nez de Dieu, et si vous commettez le péché, vous empestez vous-même au nez de Dieu. Vous ne lui êtes pas du tout, mais pas du tout agréable. Donc, c'est l'heure où Dieu veut tous nous utiliser, chacun de nous, toi, moi. Mais il ne peut pas utiliser ceux qui sont désobéissants. Vous qui avez été un jour avec Dieu, emportés d'abord par une chose et ensuite par une autre, il est temps de mettre de l'ordre. Si vous avez l'intention d'aller quelque part avec Dieu, avant qu'il vous rejette totalement, Dieu va rejeter de nombreuses personnes. Il est déjà en train de rejeter des gens en cette heure-ci qui est la dernière de cette civilisation actuelle. Par manque d'engagement, nombreux sont ceux parmi vous qui sont en train de prendre des risques avec leur âme. Vous êtes à la table de jeu du diable, jetant les dés avec Lucifer. Ceux qui jouent avec lui perdent toujours, car il est un tricheur, il est un menteur. Ses dés sont pipés. Il vous a escroqué de nombreuses bénédictions et il veut vous escroquer votre âme. Dieu aurait planifié toute votre vie si vous le lui aviez permis, mais vous n'avez jamais été aussi obéissant envers Dieu et vous le blâmez lorsque les choses ne marchent pas très bien. Dieu n'a aucune part dans tout cela. Vous avez planifié votre propre vie sans aucune pensée de ce que Dieu voulait. Vous avez misé sur votre propre jugement et vous avez perdu. La Bible dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Chers amis, la désobéissance sans la tromperie, est-ce vraiment possible? Pensons à la désobéissance avec la tromperie. Samuel s'adressa à Saül, le premier roi d'Israël. Il était choisi par Dieu pour régner sur Israël après qu'ils aient demandé un roi. Ceci est écrit dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 18 et 19. « L'Éternel t'avait fait partir en disant « Va !» et désavoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Mais le roi Saül, même au milieu de la preuve accablante qu'il avait désobéi au Seigneur, protesta au verset 20 et 21. « Oh, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, mais le peuple a pris le butin, c'est pas moi, pour le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Or, Samuel, le prophète du Seigneur, ne fut pas influencé par les excuses de Saül, car il savait que le roi Saül était désobéissant et trompeur. Il dit à Saül, dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 22 et 23, « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa sainte parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Car la désobéissance dans d'autres versions, et oui, la désobéissance dans certaines versions bibliques, là il est écrit la rébellion. Ah, ça c'est un mot qui est juste. La rébellion est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. Il te rejette aussi comme roi. Certains d'entre vous sont comme ça lorsqu'il s'agit de faire la volonté de Dieu. Vous en avez fait une partie, mais comme Saül, vous avez changé un peu les choses. Vous avez échangé une partie de la volonté parfaite de Dieu pour ce qui était moins que parfait. Or, les voies de Dieu sont parfaites. Lisons-nous dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 31, et dans le psaume, chapitre 18, verset 31. Il n'y a pas de possibilité moyenne réduite, de s'améliorer sur quelque chose qui est parfait. Vous êtes soit obéissant, soit désobéissant. Vous ne devez pas vous duper en aucune manière, pas même un peu. Ou vous avez fait la volonté de Dieu, ou vous ne l'avez pas faite. Soit vous avez obéi à Dieu, soit vous avez été désobéissant. Seule la vérité vous affranchira, et la vérité provient de la sainte parole de Dieu. Pour que Dieu agisse pour vous, vous devez être pur, propre et sans tromperie après être venu vers Dieu. Le Seigneur, il a guéri un pécheur en lui disant de partir et de ne plus pécher de crainte. que quelque chose de pire ne lui arrive. De toute évidence, Dieu attend le même genre de vie de notre part, de ta part et de ma part. Chers amis, avez-vous changé votre vie, votre manière de vivre pour accommoder le moi plutôt que Dieu? Avez-vous changé dans votre obéissance envers Dieu depuis que vous avez reçu le salut et le baptême du Saint-Esprit? Lorsque le Saint-Esprit descendit le jour de la Pentecôte, les apôtres commencèrent à vivre comme Jésus-Christ. Ils ont enlevé leurs chaussures et ils ont mis les siennes, ah oui, et supprimant la désobéissance en se chargeant de l'amour et de la foi de Jésus-Christ. Les disciples acceptèrent aussi le Saint-Esprit qui commença à porter du fruit à travers eux. Ce fut une très grande production des fruits merveilleux de l'amour, de la joie, de la paix et de la patience. L'obéissance à Dieu et l'abandon au Saint-Esprit produisirent les 9 fruits de l'Esprit Saint dans des vies qui acceptèrent Jésus-Christ et devinrent comme lui. Voyons maintenant, chers amis, l'obéissance pesée et mesurée par l'amour de Dieu. Sachez que ceci est un temps de préparation. Oui, un temps de nettoyage, d'obéissance, de sorte que nous serons prêts à rencontrer Jésus-Christ dans les airs lorsque il viendra. Votre obéissance est pesée et mesurée par l'amour du Seigneur. Ceci est une vérité que Dieu m'a donnée récemment aux premières heures d'une matinée. Voyez-vous, l'obéissance n'est pesée et mesurée que par son amour. Je ne l'avais jamais entendu exprimer ainsi. Pesée par son amour, un poids équitable. Lorsque le Seigneur prononce le verdict de votre obéissance ou de votre désobéissance, il n'y a rien à répondre. Si le verdict est la désobéissance, nous ne devrions jamais, jamais tenter de nous justifier. Je dis bien, si le verdict est la désobéissance, nous ne devrions jamais tenter de nous justifier ou d'argumenter, car ce verdict-là a été pesé, mesuré avec amour. Ce n'est que par l'amour de Dieu que vous pouvez être obéissant, car seul l'amour de Dieu peut comprendre l'obéissance. Ni le diable, ni l'homme n'ont aucun amour pour l'obéissance. Seul Dieu a ce genre d'amour. Jésus-Christ utilisa l'obéissance du ciel et il l'a amenée du ciel sur la terre pour nous. Jésus-Christ, oui, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant donc jusqu'à la mort. Je répète, Jésus-Christ s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, rappelez-vous. Oui, c'est écrit dans Philippiens chapitre 2 verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Oui, ici, les gens à qui fut rappelée l'obéissance de Christ obéissaient à la parole de Dieu lorsque l'apôtre Paul était présent, mais aussi lorsque il était absent. Verset 13 nous dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce n'est qu'avec celui qui obéit, chers amis, que Dieu peut accomplir sa volonté et faire son bon plaisir. L'obéissance donne la vue, elle donne la vue à saint Paul, un homme qui autrefois persécutait le peuple du Seigneur. L'esprit d'obéissance donne la paix, le chagrin, par contre, vient par la désobéissance la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre ou la mienne. L'obéissance produit le bonheur, elle vous amène dans la grandeur de Dieu, dans la puissance de Dieu et dans sa joie. Certains parmi vous cherchent toujours à aller au ciel parce que vous ne faites pas descendre suffisamment le ciel autour de vous. Bien au contraire, votre façon de penser vous apporte l'enfer et beaucoup de chagrin. Lorsque vous avez Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit dans votre cœur, vous tirez l'énergie vitale du ciel, et ceci tout le temps. Voyez-vous, nous devons savoir que les désirs spirituels ne sont pas comblés par les choses du monde. La satisfaction mondaine vous poussera à rechercher des choses matérielles pour prendre soin des désirs spirituels. En d'autres termes, elle vous dupera, vous faisant croire que votre âme peut être satisfaite par les choses qui viennent de ce monde. Or, l'âme et votre esprit viennent de Dieu. Elle est comme Dieu lui-même, s'il n'y a aucun péché en elle. L'âme est le vrai vous, la partie éternelle de votre personne qui ne peut jamais mourir. Elle ne peut être saine et heureuse qu'avec les choses célestes. Par votre obéissance, en gardant votre âme et votre esprit délivrés du péché, chers amis, vous avez un lien direct, un canal direct coulant de Dieu vers vous. Laissez donc Dieu couler vers vous, purifier votre vie de vous, ce qui boucherait le canal. Voyez-vous, le Seigneur veut prendre votre esprit, se révéler, vous faisant connaître ce que vous avez besoin de faire afin que votre travail puisse être dirigé par le Saint-Esprit. Les Israélites allaient bien lorsqu'ils avançaient avec Dieu, mais lorsque la nuée avançait, ils avançaient. Ensuite, un jour, la nuée avança, et eux, ils ne bougèrent pas. Alors ils perdirent la nuée de vue. À plusieurs reprises, j'ai pensé à cette nuée. Je suis sûr que Dieu ne va pas partir sans moi. Je ne serai pas aussi intéressé par cette vie si elle devait entraver ma progression avec Dieu. Oh non ! J'ai appris à garder le moi en soumission à la volonté de Dieu en tout et à ne vouloir que ce que Dieu veut. Je l'ai fait même dans la mort de ma merveilleuse et, je dis, sainte épouse. Je dis sainte, c'est pour moi, elle était sainte. Ça n'a rien à faire avec des termes de certaines églises. Vous avez bien compris. Elle était vraiment un modèle pour moi. Et Dieu a dit que c'était sa volonté divine, hélas, de la prendre lorsqu'il l'a fait. Et c'est là tout ce que Dieu a eu à me dire. Et lorsqu'il m'a dit cela, croyez-moi, l'affaire était close. Ça n'avait pas d'importance que mon cœur soit brisé, qu'il soit cassé, qu'il soit dans le plus bas et que, un peu plus, je pète les plombs, comme on dit. Mais que je sois, même en 1000 morceaux, eh bien, ces millions de morceaux étaient sur l'autel. Ils étaient devenus soumis à Christ. Et c'est pour cette raison qu'il a pu me reconstituer, faisant un vase meilleur que jamais auparavant. Soit le chagrin vous éloigne de Dieu, ou il vous fait aller plus profondément en lui. Votre intimité envers Dieu dépend de la manière dont vous répondez au chagrin et aux soucis de l'existence. Comment gérez-vous votre vie, chers amis? Comment répondez-vous lorsque vous vous trouvez dans les vallées? N'importe qui peut être heureux au sommet d'une montagne, mais comment agissez-vous dans les vallées? Vous affronterez tôt ou tard les conséquences de votre vie. Vous pouvez me croire. Demain, cependant, le choix ne sera plus le vôtre. Lorsque ce sera le lendemain de Dieu, il prendra le contrôle de l'homme, du monde, et des gens seront laissés avec les conséquences de leurs décisions pour tout le temps et pour toute l'éternité. Ceux qui veulent la volonté de Dieu décideront dans cette vie. J'avance avec Dieu. Oui, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ceux qui ne veulent pas la volonté de Dieu et qui n'obéissent pas à la parole sainte seront exclus de la présence de Dieu pour toute l'éternité. C'est pas moi qui le dis. Il en aura fini avec cet esprit de rébellion. Dieu va détruire l'esprit de désobéissance. Et c'est ce que dit le Seigneur. S'il doit détruire chacun de nous, il le fera pour se débarrasser de l'esprit de désobéissance. Chers amis, décidez maintenant dans votre cœur, dans votre esprit et dans votre âme qu'il n'y aura aucune désobéissance dans votre vie pour le reste de votre voyage sur cette terre. Vivez une obéissance envers Dieu. Respirez-la avec son Esprit Saint en vous. Votre esprit sera tout aussi pur que le sien. C'est le sang de Jésus-Christ qui le rend ainsi. Son Esprit Saint vous donnera vie, joie, ainsi que sa grandeur. Jésus-Christ veut être au contrôle total de votre vie. Cela signifie que votre âme sera plus pure lorsque vous arriverez au ciel qu'elle ne l'est maintenant. N'est-ce pas là une pensée étonnante? Vous devez être pur à ce point dans cette vie, soumis à sa volonté sur terre, autant que vous le serez au ciel. Soyez donc prêts à vivre, soyez, chers amis, prêts à mourir, prêts à faire tout ce qu'il veut. Ayez faim, ayez soif de sa volonté et ne prenez pas en considération la vôtre. Veuillez vraiment veiller. Nous devons veiller et nous devons vouloir. Vouloir ce que Dieu veut, car rien de plus et rien de moins vous sera demandé. Consacrez-vous à lui, et ceci à 100%. Donnez à Dieu toutes vos priorités. Laissez-le être le premier dans votre vie, dans chaque action, dans chaque direction. Chaque jour que vous vivez, laissez Dieu être le premier. Jésus-Christ te dit maintenant, suis-moi. La Sainte Parole déclare-t-elle que vous appartenez à 1% au Seigneur? Si votre vie est mise au niveau de la Bible, alors la Bible déclare que vous lui appartenez. Il est le premier avec vous. Ceux qui déclarent qu'une telle vie ne peut pas être vécue ne tiennent aucun compte des paroles de Jésus-Christ lorsqu'il a dit « Suis-moi » dans Saint Jean chapitre 21, verset 22. Oui, pourquoi Jésus vous dirait-il de le suivre si cela était impossible? Ce n'est que par l'obéissance de Dieu, le genre d'obéissance que Jésus-Christ apporta pour que vous l'utilisiez, que vous pouvez suivre ses pas, car ce n'est que par l'obéissance de Dieu que sa foi et son amour agissent. C'est ce que Dieu m'a dit l'autre jour, dans la pensée, par l'esprit. Tant que vous n'aurez pas accepté son esprit d'obéissance, qui est venu du ciel, il ne peut pas agir avec vous d'une grande manière. Il a fallu cet esprit d'obéissance venu du ciel pour que Dieu fasse un calvaire par son Fils Jésus-Christ. Voici une question que Dieu voulait que je vous pose. Qu'a fait votre obéissance pour Dieu et son royaume, et que a fait votre désobéissance contre son royaume? Je répète, qu'a fait votre obéissance pour Dieu et pour son royaume, et que a fait votre désobéissance contre son royaume? Quel genre de vie Dieu a-t-il eu de votre part? Était-elle digne du prix que Jésus-Christ a payé sur la croix? Si ce prix-là vous a délivré de tout péché, s'il a fait de vous une nouvelle créature, alors Dieu dit que vous en êtes digne. Si vous marchez dans les chaussures et dans les pas de Jésus-Christ, alors ça en vaut la peine, a dit le Seigneur. Si vous allez au ciel, ça en vaut la peine. Mais si vous allez en enfer, ça ne l'était pas en ce qui vous concerne. Pour terminer, chers amis, sachez, et n'oubliez jamais, seuls ceux qui obéissent reçoivent le meilleur de Dieu. Combien de fois vous êtes-vous privé de beaucoup de bonheur de la part du ciel à cause de votre désobéissance? Combien de fois n'avez-vous pas pu recevoir le meilleur de Dieu à cause de votre désobéissance? Seuls ceux qui obéissent reçoivent le meilleur de Dieu. Combien d'années, combien de semaines, combien d'heures avez-vous passé dans une obéissance totale envers Dieu? J'ai honte de vous dire que j'ai souvent désobéi et j'ai vraiment très honte de cela. Vous pouvez me croire. Dieu veut que je vous demande tout cela et votre réponse vous dira pourquoi votre vie a été telle qu'elle fut. Les promesses de Dieu sont pour ceux qui obéissent et non pour ceux qui n'obéissent pas. À ceux qui obéissent, le ciel est promis. Aux désobéissants, hélas, c'est la mort éternelle. Parce que Jésus-Christ est avec vous, vous avez la lumière. Et peu importe combien la nuit est sombre, vous ne vous perdrez jamais aussi longtemps que vous tiendrez la main de Jésus-Christ. Ces signes de promesse sont tout le long de votre chemin. Si vous ne voyez pas les promesses de Dieu s'accomplir, vous êtes sur le mauvais chemin. Chers amis, n'avez-vous pas peur de la fournaise ardente? Quelle valeur avez-vous pour Dieu? Ceci est une autre question qui voulait que je vous pose. Quelle valeur a le Seigneur Jésus-Christ pour vous? Chers amis, maintenant, oui, maintenant, laissez votre vie être remplie d'obéissance envers Dieu, afin qu'à travers vous, il puisse vivre une grande vie, le reste de tout votre voyage ici sur la terre, en cette heure qui est, croyez-moi, bientôt la dernière. Chers amis, nous allons terminer ensemble par la prière. Ça en vaut la peine. Et vous pouvez prier, oh oui, tout simplement, cette prière après moi. Je veux tâcher de la prier, de la parler, de la prier lentement, afin que vous puissiez la répéter après moi. Père céleste, tu nous as montré que les prophètes qui ont annoncé la grâce qui nous était destinée avaient fait connaître les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et tout s'accomplit en effet conformément à ces révélations du Saint-Esprit. Mais ces souffrances avaient pour but le salut des âmes. Oui, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'affliction ou l'angoisse, ou même le péril? Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ne nous pourrons séparer de l'amour que Dieu nous a montré en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que tout soit donc aussi accompli pour moi, ô mon Dieu, pour vous, chers amis, selon ses promesses, selon les promesses de Dieu, du Dieu de grâce et de miséricorde. Amen. Oui, chers amis, merci, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Mais ne pensez pas que tout le monde, comme on veut bien nous le faire croire, sera sauvé parce qu'il va, une fois à Pâques et une fois à Noël, dans un lieu de culte ou dans une cathédrale. Ça ne suffira certainement pas. Prenez cela au sérieux et à bientôt à nouveau. Mes très chers amis, au revoir.